Et donc, on va parler des otages, la phase 2 de l'accord et des négociations sur l'avenir de Gaza avec Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Lise, je vous laisse en discuter avec lui.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Donc, malgré le chantage du Hamas la semaine dernière, 3 otages ont été libérés ce week-end. Ils avaient l'air, sur les images, dans un moins mauvais état que ceux de la semaine dernière, mais il ne faut pas s'y fier avec les récits qu'ils ont faits juste après, Raphaël.
Oui, d'abord, c'est une résilience. N'oublions pas que beaucoup d'otages n'ont pas survécu aux sévices qu'ils ont subis durant leur captivité, et donc il y a des morts. Les plus costauds, les plus jeunes, les plus résilients ont montré un héroïsme extraordinaire, et donc certains ont réussi à survivre. Ça a aussi dépendu du genre de sévices qui leur ont été infligés, mais dans l'ensemble, on parle de torture physique et de torture psychologique, et donc ça a été extrêmement dur pour eux. Le fait que les 3 derniers libérés aient l'air d'avoir un petit peu meilleure mine est trompeur, puisqu'ils ont été tout simplement plus nourris, je voudrais dire un peu engraissés, pour ne pas avoir les mêmes images que la semaine précédente, où il y avait 3 otages qui ressemblaient à des survivants du camp de Auschwitz. Et donc, il faut bien comprendre, nous le savons maintenant malheureusement, nous en avons malheureusement l'expérience, que les psychologues vont trouver d'horribles traumatismes qui devront être traités probablement pendant de longues années, que les médecins vont trouver des dégâts internes, digestifs et autres, causés par la malnutrition, le manque de lumière, etc., le manque de vitamines. Mais comme on le voit, donc résilience, bravoure, courage de ces personnes qui vont être surtout entourées par leurs familles. C'est surtout le travail maintenant des familles, des amis proches, de les soutenir dans les longues années qu'il va leur falloir pour sortir de ce traumatisme.
Alors justement, Raphaël, vous parlez des familles. L'un d'entre eux a été blessé depuis le 7 octobre, mais quand les soldats de Tsahal lui ont proposé de le soigner, il a d'abord répondu « Non, je veux voir ma famille d'abord ». C'est vraiment ça qui est le plus important, en fait, pour les otages, dans un sens comme dans l'autre.
Oui, absolument, d'où la cruauté et l'horreur pour certains d'être libérés et de découvrir que des membres de leur famille, en fait, n'ont pas survécu au massacre du 7 octobre ou sont encore en captivité. C'est extrêmement difficile parce qu'effectivement, il semblerait que la famille, ce soit l'essentiel, donc le psychologique l'emporterait sur le physique et aussi et surtout la grande famille, c'est-à-dire le soutien du peuple d'Israël. Ces fameuses manifestations avec les rubans jaunes, les drapeaux jaunes à la place des otages et sur la rue Kaplan de Tel Aviv et dans toutes les villes d'Israël, même sur les routes d'Israël, ils en ont eu vent. Il y a beaucoup d'otages qui en ont entendu parler et ça les a énormément soutenus psychologiquement durant leur détention, de savoir au point que les détenteurs du Hamas leur disaient « Non, ils vous ont oublié, ils vous ont laissé tomber, le gouvernement se fiche de vous pour les torturer psychologiquement ». Mais ils ont réussi ici et là à comprendre qu'il y avait un mouvement de soutien populaire israélien en leur faveur qui les a beaucoup aidés, c'est-à-dire en fait une grande famille. Et pour nous tous, Israéliens et peuple juif, ces noms, ces photos sont devenus effectivement des proches, on les connaît par nom, on sait qui ils sont, avec pour les plus proches bien sûr les enfants Bibas et la maman, mais ils sont maintenant partie de notre famille.
Bien sûr. Alors, Sacha Troupanov, il n'était pas détenu par le Hamas à Gaza, il était détenu par le djihad islamique. Et donc, la mise en scène de cette 6e libération d'otages, Raphaël, ils l'ont fait conjointement, le Hamas et le djihad.
Oui, quand ça les arrange, ils montrent une image d'unité, le djihad islamique, le Hamas et d'autres factions. Il y a d'autres factions djihadistes dans Gaza plus petites. Ils montrent une image d'unité. Quand ça les arrange pas, ils montrent une image de division qui est parfois réelle parce qu'ils se disputent pour de bon et qui est parfois mise en scène pour dire « Ah, ben regardez, c'est pas moi le Hamas qui a lancé le missile, c'est le djihad islamique ». Donc ils jouent là-dessus. Le fait que Trofonov soit un petit peu en meilleur état, c'est d'abord parce qu'il est jeune, costaud et russe, mais c'est aussi justement parce qu'il est russe. Je pense qu'il a été, je pense, je n'en suis pas certain, mais qu'il a été un peu ménagé du fait qu'il ait une citoyenneté russe, ce qui n'a pas empêché qu'il n'a pas été libéré. Je veux dire, Vladimir Poutine, avec le soi-disant poids qu'il a, n'a pas réussi à le faire sortir.
Oui, tout à fait. Alors, il reste dans cette première phase 14 otages à libérer. Il y en a 6 seulement de vivants et on attend 8 corps. Donc ça va être assez rapidement compliqué. Parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, Raphaël, ils doivent être libérés d'un seul coup, en fait, à la fin de cette première phase.
D'après les temps impartis et d'après l'exigence israélienne, qui voudrait non pas 3, mais 6 vivants d'un coup. Si on pourrait à la rigueur attendre plus pour ceux qui sont décédés, pour les corps, mais effectivement on s'attend à libérer les 6 le plus rapidement possible. D'un autre côté, il semblerait que se profile à l'horizon la possibilité d'une extension de cette première phase, la phase A, qu'on n'engage pas encore. Bon, d'ailleurs les discussions ne sont pas engagées pour la prochaine phase, pour le reste des otages et pour la continuation de l'évacuation de Gaza par Tsahal. Et donc, on parle maintenant d'une possible rallonge de probablement 2 semaines de cette phase A, ce qui permettrait d'ajouter effectivement des noms, on l'espère, de vivants à la liste des libérés de cette première phase.
Alors, bien entendu, toujours cette question du sort de Shiri Bibas et de ses deux fils, Ariel et Kfir, sur lequel personne n'a d'informations, Raphaël, et les Israéliens ont de plus en plus peur.
Le pessimisme est de mise en ce moment, et plus le temps passe, et plus on pense que les chances se réduisent, qu'on ait de bonnes nouvelles. On est tous, évidemment, on prie tous. Le papa lui-même garde espoir, évidemment. Mais je pense que c'est véritablement, ça serait une excellente surprise, un miracle même, je pense qu'il soit vivant. J'ai plutôt l'impression que le Hamas a peur d'arriver à ce stade, de révéler ce qui leur est arrivé et de rendre, eux qui insistent tellement sur leur image de marque internationale et médiatique, je pense que là, leur image en prendra un sérieux coup de rendre cette maman et ses deux petits-enfants dans des cercueils. Donc, prions pour qu'ils soient encore vivants, bien que le pessimisme soit de mise. Je vois mal quel intérêt aurait eu le Hamas à jouer la carte de ne pas nous dire s'ils sont morts ou vivants et de ne pas les libérer avec les autres femmes et enfants et personnes âgées qui étaient les premiers, en fin de compte, à devoir être libérés. Il se peut qu'il y ait là un calcul cynique pour torturer la population israélienne. N'oublions pas que c'est effectivement le sceau, le cachet hein, du Hamas, c'est faire d'abord du mal aux autres avant de se faire du bien à soi-même. Donc voilà.
Alors Israël doit envoyer une délégation de travail au Caire aujourd'hui pour discuter de l'accord sur les otages. Mais seulement Gal Hirsch, un responsable du Shin Bet, pas de David Barnea, chef du Mossad, pas de plus grosse délégation. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans un stade préparatoire. On n'est pas vraiment dans le dur de négociations importantes, Raphaël.
Non, pas du tout. Alors, j'espère, ça pourrait être, et j'espère que ça l'est, une manœuvre pour effectivement prolonger la phase A, donc ne pas encore passer à la phase B, ne pas négocier la suite pour prolonger cette première phase qui pour l'instant se déroule plus ou moins bien. Mais c'est un petit peu dommage d'envoyer quelqu'un comme Gal Hirsch, qui est complètement inefficace, que les familles d'otages n'aiment pas du tout, qui s'est montré véritablement une personne froide et vraiment pas, qui n'a pas contribué beaucoup à toute cette question des otages. C'est regrettable, alors qu'il y a effectivement des pointures qui sont prêtes à se sacrifier jour et nuit à la cause, dont le chef du Shin Bet. Mais comme tout le monde le sait, il y a de l'eau dans le gaz entre le chef du Shin Bet et le Premier ministre, et il ne veut pas toujours lui donner le lest qu'il demande. Je rappelle que, en ce qui concerne les experts de la sécurité du Shin Bet, du Mossad et de Tsahal, qu'ils sont prêts à payer le prix fort, qu'ils sont capables d'encaisser le coup d'un retrait des troupes de Tsahal hors de Gaza, et de libération de terroristes. Ils l'ont déclaré, donc sur le plan sécuritaire professionnel pur, ils sont capables d'encaisser le coup, quitte par la suite, évidemment, à rattraper la balle et à rattraper d'ailleurs les terroristes libérés ou à les éliminer plus tard, et pour Tzal à rentrer de nouveau dans Gaza si nécessaire. Donc c'est maintenant une décision purement aux politiques de comment faire, mais je le dis, je pense qu'il y a ici une manœuvre rusée d'essayer de prolonger la première phase avant de passer à la seconde, ce qui mettrait effectivement le Hamas sur les dents, qui me les ferait même paniquer.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires de Tzahal, d'avoir été avec nous et auteur de nombreux livres que je vous conseille. Bonne journée à vous, Raphaël. À bientôt.
Bonne journée.